Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, l'ONU commémore les victimes de violences en raison de leur religion ou de leur conviction. Au Cameroun, le PNUD aide les victimes de Boko Haram à se reconstruire. Au Mali, la chanteuse Roka Traoré plaide pour le rôle des artistes en faveur de la paix. Et en dossier, nous reviendrons sur la situation humanitaire en République centrafricaine. Les Nations Unies ont marqué le 22 août, pour la première fois, la Journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou de leur conviction. L'occasion pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, d'appeler le monde à opposer aux messages de haine des messages de paix. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Antonio Guterres a noté que nombre d'attaques, comme celles perpétrées en Nouvelle-Zélande, au Sri Lanka et aux États-Unis, ont visé spécifiquement des lieux de culte et que dans de nombreux conflits à travers le monde, de la Syrie à la République centrafricaine, des populations entières ont été attaquées en raison de leur confession. Dans ce contexte, le secrétaire général appelle le monde à prendre des mesures pour éliminer l'antisémitisme, la haine anti-musulmane, la persécution des chrétiens et d'autres groupes religieux. Nous devons nous opposer à ceux qui invoquent la religion de façon trompeuse et malveillante pour faire naître des idées fausses, exacerber les divisions et propager la peur et la haine, a-t-il déclaré. Cette journée de commémoration est l'occasion pour l'ONU de réaffirmer son soutien indéfectible aux victimes en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir de telles attaques et en exigeant que les responsables soient amenés à répondre de leurs actes. L'ONU a intensifié son action au moyen de deux nouvelles initiatives, une stratégie et un plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine et un plan d'action pour la protection des sites religieux. Selon le secrétaire général, la meilleure manière de faire face à la menace de la violence fondée sur la religion et les convictions est d'opposer aux messages de haine des messages de paix.
Dans la région du lac Tchad, les survivants du terrorisme tentent de reconstruire leur vie avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. C'est le cas de la Camerounaise Wala Matari, qui a été otage de Boko Haram pendant 2 ans. Aujourd'hui libre, cette femme de 29 ans vit à Zamaï, dans l'extrême nord du Cameroun, où elle a commencé un commerce de bière locale. Tony Kouemo est chargé des évaluations des programmes du PNUD dans l'extrême nord du Cameroun. Au micro de Daniel Dickinson, il explique comment le programme Argent contre travail de l'agence onusienne a permis à Wala Matari de reconstruire sa vie.
Elle a constitué un petit commerce pour essayer d'améliorer son niveau de vie vu qu'elle a une grande charge. Elle a environ 6 enfants avec elle et avec son mari qui n'est physiquement pas apte à l'appuyer. Aujourd'hui, comme vous voyez, c'est un jour de commerce. C'est ce jour où elle reçoit une majorité de ses clients qui viennent pour acheter ce qu'on appelle en langage local le bilibili, qui est ici la boisson locale. Et c'est elle-même qui confectionne cela à travers le mil rouge, près de la transformation. Il est fermenté et on obtient cette boisson locale-là. Donc elle vend, elle commercialise cela. Comme vous le voyez, elle s'essuie les doigts, elle s'en sort. Comme vous le voyez, il y a un grand nombre de personnes et tout son stock est épuisé. D'ici 1 heure, il n'y aura plus rien. Et c'est un success story pour nous parce que très peu ont pu se démarquer comme elle l'a fait. Mais on comprend que c'est une dame qui a eu la volonté de pouvoir prendre des initiatives entrepreneuriales pour essayer ici d'améliorer son niveau de vie, mais aussi contribuer à l'éducation de ses enfants qu'elle a à sa charge et aussi soutenir son mari qui physiquement n'a pas toutes les capacités pour l'accompagner.
Quel rôle les artistes peuvent-ils jouer dans la résolution de la crise au Mali ? Roka Traoré est ambassadrice de bonne volonté du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elle estime que ce rôle est important à long terme. Selon la chanteuse et musicienne malienne, les artistes, à travers leur engagement et leur communication, permettent aux populations de transcender les divergences et de former une cohésion sociale indispensable à la paix. On l'écoute au micro de Moussa Diarra de Mikado FM.
Le rôle de la culture, comme je l'ai toujours dit, et des hommes et des femmes de culture dans les conflits est extrêmement important sur le plan de la communication, mais sur le plan de la gestion à long terme post-crise et en préventif avant les crises. En termes d'intégration sociale, en termes de cohésion sociale, d'accompagnement, de donner la capacité, rappeler chez les gens leur capacité à se penser, savoir d'où ils viennent et engager déjà une réflexion à leur propre niveau par rapport à qui ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer, retrouver une notion de dignité, notre responsabilité dans notre propre vie. La culture est l'élément le plus efficace dans la vie parce que la culture, c'est notre quotidien. C'est ce que nous faisons tous les jours, la manière dont ça évolue. Et quand on ne maîtrise plus cela, on ne maîtrise rien. Donc, en tant que femme de culture, je pense que la culture a un rôle extrêmement important par rapport à la sensibilisation et à la communication sur la crise au Mali, et que le reste du monde soit au courant. Mais cela suppose que nous sommes en accord et que nous avons compris ce que notre propre gouvernement fait.
Suite de notre série d'hommages aux travailleurs humanitaires, avec cette fois-ci la situation en République centrafricaine, qui connaît un conflit depuis plus de 5 ans. François Batalingaya est le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en RCA. Au micro de Boris Ngouagouni de Guira FM, il explique les défis sanitaires et sécuritaires rencontrés en Centrafrique et les réponses apportées par les Nations Unies.
La situation humanitaire en RCA aujourd'hui est très inquiétante. Du fait que, vous vous rappelez, un Centrafricain sur 5 est en situation de déplacement. Ça veut dire qu'un peu moins de 600 000 personnes se soient réfugiées et aussi un nombre aussi important est déplacé interne. Ça, c'est très inquiétant. Et en plus, nous avons un peu moins de 3 millions de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire cette année. Ça représente environ 63% de la population de RCA qui a besoin d'assistance humanitaire ici en 2019. Je voudrais ajouter qu'environ 500 000 personnes ici en RCA se trouvent en situation d'insécurité alimentaire sévère. Et ces personnes se trouvent surtout dans les préfectures du Hombomou, Mbomou et la Basse-Koto. Mais n'oublions pas une deuxième catégorie de personnes qui se trouvent dans les 5 préfectures de la Haute-Koto, Louaka, Nanagribizi, Ouam et Ouampende.
Combien avez-vous déjà mobilisé pour cette année et quelle a été la réponse de la communauté humanitaire pour soulager la souffrance de la population centrafricaine?
Pour l'année 2019, la réponse humanitaire requiert environ 430 millions de dollars pour répondre à tous les besoins de la population, d'environ 1,6 million de personnes. Mais maintenant, jusqu'à présent, nous avons reçu jusqu'à 190 millions, ce qui représente environ 44% des ressources requises. C'est insuffisant pour assister tout le monde. Mais néanmoins, nous parvenons chaque mois à assister, que ce soit en santé, en eau, en abri, en vivres et tout consort. Je peux dire que les bailleurs de fonds traditionnels sont un peu fatigués. Parce qu'il y a aussi des crises qui sont en compétition, notamment à Yémen, dans la Syrie. Récemment, on a eu la cyclone de Mozambique et tout cela.
Parlons maintenant de la santé. La RCA est voisine de la RDC. Et le mouvement de personnes entre ces deux pays est régulier. Quelles sont les mesures prises en partenariat avec le ministère de la Santé pour barrer la route à Ebola?
Premièrement, le ministre de la Santé, le docteur Pierre Somsé, et son équipe prennent le risque au sérieux. Nous avons déjà rédigé un plan de contingence à court et à moyen terme pour barrer la route à la maladie à virus Ebola. Il reste maintenant à mobiliser le financement parce que nous avons besoin d'environ 9 millions de dollars pour nous préparer. Mais aussi, ce n'est pas seulement donc, le ministère de la Santé et les ONG et les agences qui peuvent faire ça. Nous avons besoin d'une réponse interministérielle et interagence. Ça veut dire quoi? La surveillance épidémiologique. Nous devons contrôler les postes d'entrée de la RDC. La circulation des personnes et de leurs biens doit continuer, mais il faut être vigilant.
Autre inquiétude, la poliomyélite. 2 cas de poliovirus ont été rapportés. Que retenir de la riposte?
Le ministre de la Santé a déclaré la poliomyélite comme une urgence nationale de santé publique vers la fin du mois de mai. Et pour contrecarrer la maladie, le ministère de la Santé, appuyé par ses partenaires, dont l'UNICEF et l'OMS, ils ont organisé des rondes de vaccination. Ce qu'on appelle la ronde zéro, elle a eu lieu dans 4 districts sanitaires. Donc à Bambari, à Bimbo, à Kouango-Grimari et à Lindao.
Beaucoup d'activités sont réalisées, mais vous faites aussi face à certaines difficultés, vous, humanitaires, notamment la violence physique contre ces travailleurs humanitaires. Comment faites-vous afin de préserver la sécurité des humanitaires et la continuité des actions pour sauver la vie des personnes vulnérables?
Les attaques contre le personnel humanitaire, c'est très inquiétant. Seulement entre le mois de janvier et juin, nous avons eu 130 attaques contre des humanitaires. Et aussi, il y a eu 22 humanitaires qui ont été blessés et 3 humanitaires ont été assassinés. Je voudrais ajouter aussi une autre chose, c'est le braquage de nos véhicules. Ici à Bangui, nous avons déjà cette année enregistré 8 véhicules volés, ce qui est quand même inacceptable. Dans la mesure du possible, nous continuerons à donner cette assistance. Nous continuerons à sauver des vies, à préserver la dignité humaine. Mais il y aura des moments où trop, ça sera trop. Il y aura des moments où on décidera à fermer la porte. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là.
Fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.